Les sept péchés capitaux d'Eugène Sue. La paresse, le cousin Michel. Chapitre 1er. Un peintre voudrait-il représenter dans sa plus charmante expression la paresseuse douceur du Farniente? Nous allons tenter de lui offrir un modèle. Florence de Luceval, mariée depuis 6 mois, n'a pas encore 17 ans. Elle est blanche et rose, avec de beaux cheveux blonds. Quoique d'une taille svelte et élancée, la jeune femme est un peu grasse. Mais ce léger embonpoint est si merveilleusement réparti qu'il devient un nouvel attrait. La pose de Florence, enveloppée d'un peignoir de mousseline blanche, est pleine de nonchalance et d'abandon. À demi étendue dans un moelleux fauteuil à dossier renversé, où repose indolemment sa tête charmante, elle allonge et croise ses petits pieds chaussés de mignonnes pantoufles sur un épais coussin, tandis que du bout de ses doigts effilés, elle effeuille une rose sur ses genoux. La jeune femme, ainsi placée auprès d'une fenêtre ouverte donnant sur un jardin, laisse errer ses grands yeux bleus demi-clos à travers des jeux d'ombre et de lumière que produisent les rayons dorés du soleil perçant çà et là l'obscurité bleuâtre d'une allée ombreuse. À l'extrémité de cette voûte de verdure, deux vasques de marbre blanc épanchent de l'une dans l'autre une eau cristalline. Le murmure lointain de cette cascade, le gazouillement des oiseaux, la chaleur de l'atmosphère, la limpidité d'un ciel d'été, la senteur embaumée de plusieurs massifs d'héliotropes et de chèvrefeuilles du Japon, plonge la jeune femme dans l'extase d'une béatitude contemplative. Ainsi, mollement étendue, laissant sa pensée s'engourdir à demi comme son corps, il lui semble qu'un fluide énervant l'enveloppe, la pénètre, et il s'abandonne à ce délicieux anéantissement de tout son être. Pendant que cette incurable paresseuse cédait ainsi au charme de son indolence habituelle, la scène suivante se passait dans une pièce voisine. Monsieur Alexandre de Luceval venait d'entrer dans la chambre à coucher de sa femme. C'était un jeune homme de 25 ans environ, brun, sec, nerveux. L'activité, la pétulance de son caractère, se trahissaient dans ses moindres gestes. Il appartenait à cette classe de gens qui, doués ou affligés d'un besoin de locomotion incessant, ont, comme on le dit vulgairement, du salpêtre dans les veines, et ne peuvent rester une minute en place, ou sans agir, de ci de là, pour le moindre motif. Ce personnage semblait être en 10 endroits à la fois, et résoudre à la fois 2 problèmes, celui du mouvement perpétuel et celui de l'ubiquité. 2 heures de l'après-midi sonnaient. Monsieur de Luceval, levé dès l'aube, il dormait 4 ou 5 heures au plus, avait déjà parcouru la moitié de Paris à pied ou à cheval. Au moment où il se présentait dans la chambre à coucher de Madame de Luceval, une des femmes de celle-ci s'y trouvait. « Eh bien, lui dit son maître d'une voix brève, précipitée, qui lui était naturelle, « Madame est-elle rentrée? Est-elle habillée? Est-elle prête ?»« Madame la marquise n'est pas sortie, monsieur, » reprit la suivante, Mademoiselle Lise. « Comment? Ce matin, madame n'est pas sortie à 11 heures ?»« Non, monsieur, puisque madame ne s'est levée qu'à 12h30. »« Allons, encore cette course remise, » dit monsieur de Luceval en frappant du pied avec impatience. Puis il reprit, « Enfin, madame est habillée, au moins. »« Oh non, monsieur. » « Madame est encore en peignoir. Madame ne m'avait pas dit qu'elle dut sortir. »« Où est-elle ? » s'écria monsieur de Luceval en frappant du pied. « Où est-elle ? » ?»« Dans le petit salon du jardin, monsieur. » Quelques secondes après, monsieur de Luceval entrait bruyamment dans le boudoir où la paresseuse était indolemment étendue dans son fauteuil. Elle s'y trouvait si bien qu'elle n'eut pas le courage de tourner la tête pour voir qui entrait. « Vraiment, Florence ! » lui dit monsieur de Luceval. « C'est insupportable !»« Quoi, mon ami ?» lui demanda-t-elle languissamment, sans bouger, les yeux toujours attachés sur le jardin. « Vous me demandez quoi ? Comme si vous ignoriez que nous devions sortir ensemble à 2 heures. Il fait trop chaud. Votre voiture est attelée. Faites-la dételer. Pour un empire, je ne bougerai. Voilà autre chose maintenant. Mais vous savez bien... qu'il est indispensable que nous sortions ensemble, d'autant plus indispensable que vous n'êtes pas sorti ce matin comme vous le deviez. Je n'ai pas eu le courage de me lever. Vous aurez du moins celui de vous habiller, et sur l'heure. Mon ami, n'insistez pas. Florence, c'est une plaisanterie.
Pas du tout.
Mais encore une fois, les achats que nous avons à faire sont de toute nécessité. Il faut que la corbeille de mariage de ma nièce soit enfin complétée, et elle le serait depuis plus d'une semaine, sans votre incroyable apathie.
Vous avez très bon goût, mon ami. Occupez-vous de cette corbeille.
Il me faudrait courir de boutique en boutique, monter, descendre, rester debout pendant des heures. Cela m'épouvante rien que d'y songer.
Allez, madame, à 17 ans, une paresse pareille, c'est honteux, c'est monstrueux, c'est une véritable maladie.
Dès demain, je consulterai le docteur Gasterini.
Ah, la bonne idée,
dit Florence en riant. Ce cher docteur, il est si spirituel. Ce sera une consultation très amusante.
Je parle sérieusement, madame. Il doit y avoir quelque chose à faire pour vous guérir de cette inconcevable apathie.
J'espère bien être incurable. Car tenez, tout à l'heure, avant votre arrivée, vous n'avez pas idée du bien-être dont je jouissais là, regardant, pour ainsi dire, sans voir, écoutant cette cascade, et ne me donnant pas même la peine de penser.
Et vous osez avouer cela?
Pourquoi pas?
Non, non, je ne crois point que l'on puisse rencontrer dans ce monde une seconde créature d'une apathie comparable à la vôtre.
Cependant, vous m'avez parlé bien des fois de votre cousin Michel, qui, selon vous, ne me cède en rien, en paresse. C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas encore pris la peine de venir vous voir depuis notre mariage.
Oh, certes, vous vous voilez tous deux. Et encore, je ne sais pas si votre indolence ne l'emporte pas sous la sienne. Mais voyons, Florence, ne plaisantons pas. Habillez-vous et sortons, je vous en conjure.
Et moi, à mon tour, mon cher Alexandre, je vous en conjure, chargez-vous de ces commissions. Et je vous promets d'aller ce soir me promener avec vous, en calèche découverte, au bois de Boulogne. Il fera nuit, je n'aurai que la peine de mettre un mantelet et un chapeau.
Comment? Mais c'est le jour de réception de madame de Saint-Prix. Voilà deux fois qu'elle est venue vous voir, et vous n'avez pas encore mis les pieds chez elle. Vous me ferez donc le plaisir d'y venir ce soir.
M'habiller? Faire une toilette?
Ma foi non, c'est trop ennuyeux.
Madame, il ne s'agit pas de ce qui est ennuyeux ou amusant, il est des devoirs de société à remplir, et vous viendrez chez madame de Saint-Prix.
La société se passera de moi comme je me passe d'elle. Le monde me fatigue, je n'irai pas chez madame de Saint-Prix.
Vous irez?
Non, et quand je dis non, c'est non.
Morbleu, madame.
Mon ami, je vous l'ai dit souvent. Je me suis marié pour quitter le couvent, pour dormir ma grasse matinée, pour me lever tous les jours à l'heure qu'il me plairait.
Pour ne plus prendre de leçons, pour jouir du délice de ne rien faire, pour être en un mot ma maîtresse.
Mais c'est parler et raisonner comme un enfant gâté.
Soit.
Ah, votre tuteur m'avait prévenu. Pourquoi ne l'ai-je pas cru? Mais j'étais à mille lieues de m'imaginer qu'un caractère comme le vôtre pouvait exister. Je me disais, chez une jeune fille de 16 ans, cette apathie, cette paresse, n'est autre chose que de l'ennui, que le dégoût que cause la vie monotone du couvent. Une fois dans le monde, le devoir et les plaisirs de la société, le soin de sa maison, les voyages, triomphons de son indolence et...
C'est pourtant vrai, cela,
dit madame de Luceval en interrompant son mari avec un ton de reproche.
Sous le prétexte que vous aviez encore à parcourir les 3/4 du globe, vous avez eu la barbarie de me proposer de voyager le lendemain de notre mariage.
Mais, madame, les voyages...
Ah, monsieur, rien qu'en m'en parlant, vous m'en donnez le frisson. Un voyage, mon Dieu, un voyage. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de plus pénible, de plus fatigant au monde, des nuits passées en voiture ou dans d'horribles auberges, des promenades, des courses sans fin, pour aller voir les prétendues beautés du pays ou les curiosités de la route.
Tenez, monsieur, je vous en ai déjà supplié, ne me parlez plus de voyages, je les ai en horreur.
Ah, madame, madame, si j'avais pu prévoir.
Je comprends, je n'aurais pas le bonheur d'être madame de Luceval.
Dites que je n'aurai pas le malheur d'être votre mari.
Après 6 mois de mariage, c'est gracieux.
Et morbleu, madame, vous me poussez à bout aussi. Il n'y a pas sur la terre un être plus malheureux que moi, car enfin il faut bien que j'éclate.
Allons, éclatez, mais tout doucement, j'aborde le bruit.
Eh bien, madame, je vous dirai, doucement, qu'il est du devoir d'une femme de se mêler de sa maison, et que vous ne vous occupez nullement de la vôtre. Sans moi, je ne sais comment elle irait.
Cela regarde votre intendant. D'ailleurs, vous avez de l'activité pour deux. Il faut bien que vous l'employiez à quelque chose.
Je vous dirai encore, tout doucement, madame, que j'avais rêvé une vie délicieuse. Je m'étais réservé de parcourir, une fois marié, les pays les plus curieux, me disant, au lieu de voyager seul, j'aurai une compagne charmante. Fatigue, hasard, péril même, nous partagerons tout avec courage.
Ah, mon Dieu ! Murmura Florence en levant ses beaux yeux au ciel. « Osez avouer cela, encore ?»«
Quel bonheur, me disais-je, » reprit M. de Luceval, emporté par l'amertume de ses regrets. « Quel bonheur de parcourir ainsi les contrées les plus intéressantes. L'Égypte, la Turquie, oh mon Dieu, la Turquie !»«
Et même, si vous aviez été la femme que j'avais malheureusement rêvée, nous aurions pu pousser jusqu'au Caucase.
Au Caucase !» s'écria Florence en se levant cette fois tout à fait sur son séant. Car jusqu'alors, à chacune des énumérations géographiques de son mari, elle s'était progressivement soulevée du fond de son fauteuil.
« Est-il possible ? » ajouta-t-elle en joignant ses jolies mains avec effroi.
« Au Caucase ! » !»«
Et morbleu, madame ! Lady Stanhope, madame la duchesse de Plaisance et tant d'autres n'ont pas reculé devant de pareils voyages.
« Au Caucase ! Voilà donc ce qui m'était réservé. »
« Voilà ce que vous complotiez en sournois, monsieur, lorsque, toute confiante, je vous donnais innocemment ma main à la chapelle de l'Assomption.
Ah, c'est maintenant que je puis juger du cruel égoïsme de votre caractère. »
Et l'indolente retomba dans son fauteuil en répétant
« Au Caucase !»«
Oh, je le sais bien !»
reprit monsieur de Luceval avec amertume.
« Vous n'êtes pas de ces femmes capables de faire la plus petite concession au moindre désir de leur mari. »
Une petite concession. Mais, monsieur, proposez-moi donc tout de suite un voyage de découverte à Tombouctou ou dans la mer glaciale.
Madame, la courageuse femme d'un peintre éminent, madame Billard, a eu le courage, elle, d'accompagner gaiement son mari au pôle Nord.
Oui,
ajouta monsieur de Luceval d'un ton de récrimination courroucée. Entendez-vous,
madame, au pôle Nord?
Je n'entends que trop, monsieur.
Allez. Vous êtes le plus méchant ou le plus fou des hommes, madame.
Mais mon Dieu, monsieur, qui vous retient?
Vous avez la passion, la monomanie des voyages. Leur peau vous donne des vertiges. Voyagez! Allez au Caucase, allez au pôle Nord. Partez, courez, nous y gagnerons tous deux. Je ne vous affligerai plus du spectacle de ma monstrueuse indolence. Et vous ne mériterez plus les nerfs par cette agitation continuelle qui vous empêche de rester un moment en place ou d'y laisser les autres. 20 fois par jour vous entrez chez moi pour le seul plaisir d'aller et de venir, ou mieux encore, car c'est à n'y pas croire, vous vous imaginez d'accourir m'éveiller à 5 heures du matin pour me proposer des promenades à cheval ou de me conduire à l'école de natation. N'avez-vous pas été jusqu'à m'engager à faire un peu de gymnastique? De la gymnastique? Il n'y a que vous au monde pour avoir des idées pareilles. Aussi, monsieur, je vous le répète, vos propositions sauvages, vos allées, vos venues, ce bruit, ce mouvement perpétuel, cette incessante activité dont vous êtes possédé, me causent au moins autant d'ennuis que ma paresse vous en cause. Après tout, il ne faut pas croire que seul vous ayez à vous plaindre. Et puisque nous en sommes enfin à nous dire nos vérités, je vous déclare à mon tour, monsieur, qu'une pareille vie m'est insupportable et que, si cela doit durer ainsi, il me sera impossible d'y résister.
Qu'entendez-vous par là, madame?
J'entends par là, monsieur, que nous serions bien sots de nous contraindre et de nous mutuellement gêner. Vous avez vos goûts, j'ai les miens. Vous avez votre fortune, j'ai la mienne. Vivons comme bon nous semblera, et pour l'amour du ciel, vivons surtout en repos.
En vérité, madame, je vous admire, c'est exorbitant.
Ah, vous croyez que je me suis marié pour ne pas vivre à ma guise?
Et mon Dieu, monsieur, vivez comme il vous plaira, mais laissez-moi vivre comme il me plaît.
Il me plaît à moi, madame, de vivre avec vous. C'est pour cela que je vous ai épousée, je pense. C'est donc à vous d'accepter mon genre de vie. Oui, madame, j'ai le droit de l'exiger, et j'aurai l'énergie de l'obtenir.
Monsieur de Luceval, ce que vous dites là est parfaitement ridicule.
Ah ah! Dit le mari avec un sourire sardonique. « Vous croyez ?»«
Du dernier ridicule, monsieur. »«
Alors le code civil est du dernier ridicule. »«
Eh mais, sans le connaître, je ne répondrai pas que non, puisque vous l'invoquez au sujet de cette discussion. »«
Apprenez, madame, que le code civil déclare formellement que la femme est tenue, obligée, forcée de suivre son mari. »«
au Caucase. Partout où il lui plaît de l'emmener, madame, pourvu qu'il y ait sécurité pour elle.
Monsieur, je ne suis pas en humeur de plaisanter. Sans cela, votre interprétation du code civil m'amuserait beaucoup.
Je parle sérieusement, madame, très sérieusement.
Voilà justement le comique de la chose.
Madame, prenez garde, ne me poussez pas à bout.
Allons, menacez-moi tout de suite du pôle Nord et que cela finisse.
Je ne vous menacerai pas, madame. Mais rappelez-vous bien une chose, c'est que le temps de la faiblesse est passé.
Aussi, lorsqu'il me conviendra de partir en voyage, et ce moment-là est peut-être plus prochain que vous ne le pensez, je vous avertirai 8 jours à l'avance, afin que vous ayez le temps de faire vos préparatifs. Et bon gré, mal gré, lorsque les chevaux de poste seront arrivés, il vous faudra monter en voiture.
Ou sinon, le commissaire et un bonde par la loi, suivez votre mari, je suppose, monsieur.
Oui, madame, vous avez beau rire, vous me suivrez de par la loi, car vous sentez bien qu'il faut et qu'il existe des garanties à l'endroit d'une chose aussi sérieuse, aussi sainte que le mariage.
Après tout, les goûts, le bonheur, la tranquillité d'un honnête homme ne peuvent pas être soumis aux premiers caprices d'une enfant gâtée.
Un caprice, c'est curieux. J'ai les voyages en horreur, la moindre fatigue m'est insupportable, et parce qu'il vous plaît de continuer la tradition du juif errant, je serai forcé de vous suivre.
Oui, madame, et je vous prouverai que...
Monsieur de Luceval, je hais la discussion. C'est un véritable travail et des plus fastidieux. Aussi, pour me résumer, je vous déclare que je ne vous accompagnerai dans aucun de vos voyages, ne fût-ce que pour aller d'ici à Saint-Cloud. Vous verrez si je manque à ma résolution.
Et Florence se replongea dans son fauteuil, croisa ses petits pieds l'un sur l'autre, laissa retomber languissamment ses mains sur les accoudoirs du siège, renversa sa tête en arrière et ferma à demi ses yeux comme s'il avait à se reposer d'une fatigue accablante.
« Madame, s'écria M. de Luceval, il n'en sera pas ainsi. Je ne supporterai pas ce dédaigneux silence. »
Quoi qu'il en dit, quoi qu'il en eût, le mari de Florence parla longuement sans pouvoir arracher d'elle la moindre parole. Désespérant de vaincre ce silence obstiné, il sortit furieux.
Monsieur de Luceval était parfaitement sincère dans ses prétentions. Égoïste, ingénu, touriste effréné, il n'admettait pas que sa femme n'eût point, ainsi que lui, la passion des voyages, ou que du moins elle n'agît pas comme si elle les eût aimés. Il l'admettait d'autant moins qu'en épousant Florence, il s'était persuadé qu'une enfant de 16 ans, orpheline et sortant du couvent, n'aurait aucune volonté, et serait au contraire ravie de voyager, proposition qu'il avait délicatement ménagée à sa femme comme une surprise délicieuse. Telle fut l'erreur de M. de Luceval. Son notaire lui avait parlé d'une orpheline de 16 ans, d'une figure charmante, riche de plus d'un million, qui, placée chez son tuteur, banquier renommé, rapportait 80 000 livres de rente. M. de Luceval remercia son notaire et la Providence, vit la jeune fille, la trouva ravissante, en devint amoureux, bâtit follement sa vie à venir sur le sable mouvant d'un cœur de 16 ans, se maria, et au réveil, il avait la bonhomie de s'étonner de la perte de ses illusions. Il avait la simplicité de croire que le droit, que l'obsession, que les menaces, que la force, que la loi pouvaient quelque chose sur la volonté d'une femme qui se retranche dans une résistance passive.
M. de Luceval avait quitté Florence depuis peu de temps lorsque Mlle Lise, la femme de chambre, entra dans le salon d'un air effaré et dit à sa maîtresse
« Ah, mon Dieu, madame !»«
Eh bien, qu'y a-t-il, mademoiselle ?»«
Une dame qui s'appelle Madame d'Infreville est en bas dans un fiacre. »«
Valentine ?»
dit vivement la jeune femme avec un accent de surprise et de joie. « Il y a des siècles que je ne l'ai vue. Qu'elle monte ?»«
Oh, madame, c'est impossible !»«
Comment ?»
Cette dame m'a fait demander par le portier la femme de chambre de madame la marquise. On est venu me prévenir, je suis descendu. Alors cette dame, qui était toute pâle, m'a dit « Mademoiselle, priez madame de Luceval de se donner la peine de descendre. J'ai à lui parler pour une chose fort importante. Vous lui direz mon nom, madame d'Infreville, Valentine d'Infreville. »
À peine mademoiselle Lise achevait-elle ces mots, qu'un valet de chambre entra, après avoir frappé, et dit à Florence «
« Madame la marquise peut-elle recevoir Madame d'Infreville ?»«
Comment ?»
demanda Florence, fort surprise de ce brusque revirement dans la résolution de son amie.
Madame d'Infreville est donc là ?
Oui, madame.
Priez-la d'entrer, dit madame de Luceval en se levant pour aller au-devant de son amie, qu'elle embrassa avec effusion et avec qui elle demeura seule.